Voilà, bonsoir. Je rappelle le point où l'on en est, sachant que aujourd'hui je vais essayer de couper la séance en deux. Donc le thème 4 et 5 des 6 points que j'ai annoncés au début, puisque nous avons 8 séances, en fait c'est les deux points les plus longs. Et puis j'essaierai de faire la dernière séance sur le mystère de Romain, le mystère de la mort de Paul. Donc voilà, on a vu Paul, sa culture, Paul, apôtre, pourquoi, comment, que c'est d'abord un pasteur. Et là, entre autres à partir de la question des femmes, on va un peu élargir, quel type de relation existe dans les communautés pauliniennes? Quel type de rapport entre l'anticipation du royaume, on peut dire, l'anticipation du royaume des cieux et l'adaptation à une société particulière, dans laquelle un certain nombre de choses ne passent pas ou passent. Voilà, donc c'est toute cette question. Et donc j'avais choisi comme angle d'attaque ce verset si populaire depuis 30 ans, beaucoup plus cité dans les 30 dernières années que dans les 3 siècles qui ont précédé, donc de Galates 3, 28. Donc au centre de la lettre aux Galates, au centre d'un petit développement, Galates 3, 26, 29, qui évoque au cœur de la lettre le baptême. Vous tous, vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus, vous tous en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, il n'y a pas le mâle et la femelle, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Donc cette petite section qui va être suivie par le fameux « l'Esprit qui en nous crie Abba Père », bon, le début du 4. Et donc j'avais fait une liste de questions se rapportant à ce verset. Alors, il me restait la cinquième question, justement sur, enfin j'ai déjà dit des choses là-dessus, sur le statut de cette égalité sous l'angle de la création, puisque j'avais insisté sur le fait que les trois pères, P-A-I-R-E-S, évoqués ici, donc qui renvoient aussi à 1 Corinthiens 12 et à Colossiens 3, sont de nature différente. Juif et grec renvoient à un appel particulier de Dieu, une distinction voulue par Dieu en faisant l'élection du païen Abraham et en faisant de lui le père du peuple d'Israël et des croyants. La distinction homme-esclave qui n'est nulle part voulue par Dieu en tant que telle, qui est quelque chose qu'il y a, comme dirait Heidegger, il y a de l'esclavage, bon, donc ça s'organise comme ça. Et donc, il faut bien traiter ton esclave, etc., etc. Mais enfin, ce n'est pas un commandement donné par Dieu. Et puis, la distinction mâle-femelle, dont j'avais dit, pris à un certain niveau, renvoie quand même, semble-t-il, à la Genèse, donc à la création, donc la volonté initiale de Dieu. Et donc, ça nous pose un problème spécifique. Alors certains exégètes ont même écrit, il y en a un en 66, Galates 3, 28, est dirigé contre ce que nous appelons l'ordre de la création, tenez-vous bien. Donc Paul s'en prend à l'ordre même de la création. Dit autrement, la création nouvelle, dont il est question à la fin de Galates, vous êtes une création, créature nouvelle, cette créature nouvelle est une reprise, est une refonte au même plan que la première création. Donc, je n'arrive pas à retrouver, naturellement. Voilà, au verset 6.15 hein, de Galates, que la circoncision n'est rien, ni l'incirconcision, il s'agit d'être une créature nouvelle. Hein, avec ce petit problème qu'on a en français, est-ce qu'il faut traduire création ou créature? Enfin, de toute façon, ça renvoie à la création. En revanche, pour beaucoup, traditionnellement, d'exégètes, Galates 3, 28 doit être plutôt considéré comme une déclaration ecclésiologique baptismale sur la radicale égalité de dignité de tous les baptisés, pas du tout comme une négation de la différence en soi. Ce qui d'ailleurs nous repose un problème sur l'affaire de l'esclavage, puisque aujourd'hui nous considérons l'esclavage plutôt comme une chose à éliminer au niveau de l'ordre de la vie sociale. Mais donc, soit ça remet en cause la création elle-même, soit ça ne la remet pas en cause. Donc, si vous voulez, la question, dans quelle mesure cette formule est-elle radicale, entre guillemets ? Qu'est-ce qu'elle remet en cause ? Alors, en m'appuyant sur Judith Gondry-Wolf et d'autres, et Paul Lamarche, j'ai défendu l'idée que ce qui était à éliminer dans la différence homme-femme, c'est précisément ce qui, dans cette différence, renvoyait à l'inégalité mâle-femelle liée au péché. Bon, ce qui n'est pas une position si facile à défendre par rapport au texte de la Genèse. Donc ça suppose tout un travail sur comment étaient lus les premiers chapitres de la Genèse au temps de Paul. La pointe de cette lecture étant de dire, ce n'est pas la différence homme-femme en soi qui est mauvaise, au contraire, dans un dessein positif de Dieu, dans une création rachetée, la différence homme-femme est maintenue, mais il n'y a plus rien en elle qui est marqué par le péché. Du coup, dans les rapports conjugaux, tels que Paul les décrit en 1 Corinthiens 11, on se trouve face à une réciprocité parfaite et une soumission de l'un à l'autre totalement réciproque. Alors je crois que j'avais lu ce verset de 1 Corinthiens 7, absolument capital, 1 Corinthiens 7, 4. La femme ne dispose pas de son corps, mais son mari. Pareillement, le mari ne dispose pas de son corps, mais la femme. Bon. Donc, il y a un projet, mais dans lequel, effectivement, les hommes et les femmes restent appelés à être eux-mêmes en tant qu'ils sont différents. Donc, effectivement, quelques rapports avec ce que nous vivons culturellement. Alors, cette tension entre l'ordre de la création et l'ordre de la rédemption est une tension constitutive de la foi chrétienne, et biblique en général. Parce que d'un côté, le Christ ouvre un monde nouveau. Il nous ouvre vers le monde nouveau. Ressuscité, il révèle ce à quoi nous sommes tous appelés. Et par ailleurs, son enseignement remet fréquemment en question l'ordre des choses. Il y a un renouveau qui est effectivement radical. D'un autre côté, nous ne sommes pas encore dans le royaume, même si nous prions pour qu'il vienne, hein, que ton royaume vienne. Là aussi, on a un truc nul en français, c'est cette affaire règne et royaume qui nous perturbe le vocabulaire. Bon, c'est le même mot en grec, que ton royaume vienne. Bon. Même si quelque chose des effets du royaume est déjà perçu ou parfois même vu. Donc, la tension fondamentale auquel nous avons affaire est celle de la tension théologique entre le Dieu créateur et le Dieu sauveur. Le Dieu sauveur est, EST, le Dieu créateur. Dieu vient racheter ce qu'il a créé. S'il l'a créé, il l'a créé bon. Donc, les différences créationnelles ne peuvent pas être mauvaises en soi. Il s'agit simplement, entre guillemets simplement, d'enlever des différences créationnelles ce qui est lié au péché. Mais le monde demeure dans une structure voulue par le Créateur. On pourrait dire, il y a une tension entre la théologie qui voit d'abord dans le monde créé par Dieu, et créé bon, et la théologie qui voit d'abord dans le monde l'empreinte du démon, du péché originel et de tout ce qui ne va pas. Cette tension, elle traverse toute la Bible, elle traverse le judaïsme du temps. On pourrait dire d'un côté, il y a le judaïsme alexandrin, Philon et tout, qui est très créationnel, qui voit d'abord et qui s'adapte au monde tel qu'il est, et qui voit d'abord dans l'ordre du monde un ordre voulu par Dieu. Obéissez aux autorités, je vais revenir sur ce terme, toute autorité est instituée par Dieu. Et puis, la théologie de Qumran, qui voit d'abord dans le monde un monde soumis au pouvoir du démon, du prince de ce monde, ce que le Nouveau Testament va appeler le Dieu de ce monde ou le prince de ce monde chez Paul. Donc si vous voulez, la question, quand on durcit un peu, bon, qui est le Dieu du monde? Cochez la bonne réponse. Petit a, le Dieu créateur, trois fois saint, petit b, le démon. Dans le Nouveau Testament, vous avez des versets qui vont dans les deux réponses. Évidemment, le Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, comme dit le psaume, mais on parle aussi du Dieu de ce monde. C'est-à-dire, dans le sens clairement, le Satan, c'est-à-dire celui qui fait qu'il y a quand même beaucoup de choses dans le monde qui ne vont pas. Qui ne vont pas. Voilà. Donc le regard des croyants peut être plus ou moins marqué par le premier regard ou le deuxième regard. Y compris d'ailleurs sur la différence homme-femme. On peut être marqué par ce qu'il y a de beau, de bénédiction dans cette relation, et aussi par tout ce qu'il y a d'injuste, de pécheur, de domination, etc., etc. Donc, pour le dire autrement, une approche d'un côté plus de sagesse, sapientielle on dit, ou une approche plus apocalyptique. La première voit le monde comme soumis donc au pouvoir de Dieu, créé bon, et ce bien n'a jamais entièrement disparu. On souligne tout ce qui est bon dans le créé. L'autre rappelle ou montre le monde soumis au pouvoir du démon. Vous trouvez cette tension chez Jésus lui-même, chez Paul ou dans la tradition johannique, exprimée de manière différente. Jésus s'appuie plusieurs fois dans ses propos sur la bonté du créé. Sur des raisonnements de sagesse. Voilà, nous avons tous une sagesse, une intelligence donnée par Dieu qui fait que nous nous asseyons pour réfléchir si nous pouvons construire la tour et affronter l'ennemi, etc. Il y a le bon grain fondamentalement, même si de l'ivraie a été jeté dans le champ, il y a d'abord du bon grain. L'homme bon du bon trésor de son cœur tire le bon. Mais si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, Calvin Romer, à combien plus forte raison le Dieu créateur qui est bon saura donner de bonnes choses à ceux qui l'en prient. Alors, c'est hyperbolique, comme souvent chez vous qui êtes mauvais, bon, enfin, vous qui êtes, oui, marqué par le péché, vous faites quand même de bonnes choses pour vos enfants. On voit d'abord la bonté de la relation parent-enfant. Donc, il est bon d'éteindre les portables avant les cours. Donc Jésus lui-même insiste parfois sur cette bonté du créé. Allez, allez, l'énergie, voilà. D'autres formules insistent sur le prince de ce monde. Et puis Jésus a de temps en temps des formules du genre « génération adultère et pervertie ». C'est quand même assez fort. Donc, il y a un affrontement à quelqu'un qui est très présent dans le monde et qui s'appelle le démon. Donc, c'est présent chez Jésus. C'est présent chez Paul. Un des lieux où se focalise cette tension théologique fondamentale dont je parle, elle est fondamentale pour juifs, chrétiens, même musulmans d'ailleurs, et nous, comme catholiques, nous cherchons à être équilibrés sur cette question, c'est la question du politique, des autorités. Paul va écrire aux Romains, un passage sur lequel beaucoup d'encre va couler, mais qui est capital par rapport à ce que je dis, je ne m'écarte pas en réalité du sujet du rapport homme-femme, je vais y revenir après. Il écrit aux Romains, hein, Romains 13, 1, 1 à 7, hein, que chacun se soumette aux autorités en charge. Les exousiales. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent sont instituées par Dieu. L'empereur païen, là, qui fait des conquêtes avec ses légions, oui, oui, très bien. Si bien que quiconque résiste à l'autorité se rebelle contre l'ordre taxis établi par Dieu, les rebelles se feront condamner. En effet, les juges ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Alors ça, c'est incroyable. Il y a cet aveu fondamental, qui est un principe de base, de la positivité du système judiciaire fondamentale de l'humanité. En règle générale, il y a des juges corrompus, etc. Oui, d'accord, enfin bon. Même les juges romains, a priori, si tu fais le bien, c'est bon. Veux-tu n'avoir rien à craindre de l'autorité ? Fais le bien, tu en recevras des éloges. Elle est instrument de Dieu pour te conduire au bien. Mais crains si tu fais le mal, ce n'est pas pour rien qu'elle porte le glaive, le gladium. Elle est instrument de Dieu pour faire justice et châtier qui fait le mal. Instrument de Dieu, toute autorité vient de Dieu. Ainsi, on doit se soumettre non seulement par crainte du châtiment, mais par motif de conscience. Troisième et dernier emploi du mot conscience chez Paul. N'est-ce pas pour cela d'ailleurs que vous payez des impôts ? Il y a beaucoup de gens qui aimeraient ne pas les payer à Rome à l'époque. Il y a des révoltes anti-taxes au moment où Néron augmente les impôts à la fin de son règne. Vous voyez la position théologique de certains leaders judéo-chrétiens à Rome. Ne payons pas les impôts pour ce pouvoir inique, païen, scandaleux, barbare, corrompu, luxurieux, tout ce que vous voulez, etc. Position toujours séduisante pour certains esprits. Non, non, car il s'agit de fonctionnaires, de liturges qui s'appliquent de par Dieu à cet office. Rendez à chacun ce qui lui est dû. À qui l'impôt ? L'impôt. À qui les taxes indirectes, à qui la crainte, à qui l'honneur, l'honneur. Bon. Quel est l'argument derrière ? C'est l'ordre du monde tel qu'il est, et malgré tout ce qu'il y a de péché dans le monde, fondamentalement bon et voulu par Dieu. Donc, quand Paul écrit aux Philippiens, pour élargir au plan moral, « Frères, Philippiens 4, 8, tout ce qu'il y a, de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine. Voilà ce qui doit vous préoccuper. » En d'autres termes, tenez-vous bien, nous avons un langage commun avec le monde, avec les gens, quelle que soit leur foi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont créés par Dieu avec une conscience morale, tous autant qu'ils sont. Donc même si c'est difficile, nous avons un terrain commun de parole sur le bien et le mal avec le monde. Alors d'un autre côté, alors ça c'est une position que l'Église catholique a en particulier beaucoup, traditionnellement, beaucoup défendue. Et qui renvoie en partie à un concept extrêmement disputé, qui a été récemment explicité par la Commission théologique internationale, qu'on appelle la loi naturelle, et dont on a entendu parler dans le débat sur le mariage pour tous, justement. Bon, pour que vous ne croyiez pas que Paul est unique, prenons Pierre, l'autre grand. Alors, c'est pas Pierre, mais peu importe. Première épître de Pierre. Pour nous, c'est Pierre. Pierre 1, Pierre 2, 13. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité humaine. Soit au roi, comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par Dieu, pour punir ceux qui font le mal et récompenser ceux qui font le bien. C'est la même idée. C'est de la bonne théologie juive alexandrine. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des insensés. Agissez en hommes libres, non pas en hommes qui font de la liberté un voile sur leur perversité, mais en serviteurs de Dieu. Alors là, il y a le verset qui claque, c'est un épiphonéma, une maxime sobre qui est essentielle. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi, le basileus, l'empereur. Donc, notez que Dieu n'est même pas à la fin de la liste. Et ça prélude d'ailleurs, vous les domestiques, vous les femmes, etc. Pareillement, vous les femmes. Donc c'est pour ça que c'est lié à notre sujet. Tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste et de bon. Par ailleurs, le même Paul va dire aux Corinthiens, deux Corinthiens 6, 14, ne formez pas d'attelage disparate avec les incroyants. Quel rapport en effet entre la justice et l'impiété ? Quelle union entre le Christ et Béliar ? Béliar, c'est le nom qu'aussi à Qumran on donne aux démons. Quel accord entre le temple de Dieu et les idoles ? Or c'est nous qui sommes le temple du Dieu vivant, ainsi que Dieu l'a dit. J'habiterai au milieu d'eux, j'y marcherai, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Sortez donc du milieu de ces gens-là, tenez-vous à l'écart, dit le Seigneur. Ne touchez rien d'impur, moi je vous accueillerai. Donc si vous voulez, une logique apocalyptique sectaire, au sens sociologique du terme, et une logique d'insertion dans le monde. Alors, par exemple, au plan ecclésial, nos frères évangéliques, en général, sont sur une ligne plus apocalyptique et disent « L'essentiel, c'est de faire rencontrer le Christ aux gens qui sont dans les ténèbres. Nous, nous sommes des fils de la lumière. L'objectif, c'est de faire que les gens qui sont dans les ténèbres, ils y voient clair. Tant qu'ils n'auront pas rencontré le Christ, ils n'y verront pas clair, y compris sur des sujets importants, type l'avortement, le mariage homosexuel, l'euthanasie, j'en passe à des meilleurs. Donc, mon programme en 3 points, évangélisation, évangélisation, évangélisation. Le Christ, le Christ, le Christ. Et nous, catholiques, n'ont pas entièrement tort. Bon. Et puis, il y a une logique plus catholique, Veritatis Splendor, Jean-Paul II, etc., Thomas d'Aquin, bon, qui dit, dans le monde créé par Dieu, où nous avons tous une raison, nous participons au débat public et nous présentons nos arguments. Pourquoi nous pensons que l'avortement, le mariage homosexuel, just name it, c'est pas une bonne chose? Bon. Alors les gens disent, oui, mais c'est parce que vous êtes croyants que vous dites ça, etc. Bon. Non, 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 on argumente, on vous cite des psychanalystes et tout ce que vous voulez, on argumente selon la raison. Les gens ne croient pas complètement, mais enfin, c'est pas grave. Nous, on fait l'effort d'argumenter selon la raison. Au nom de la première ligne que j'ai dit, c'est-à-dire au nom de la théologie de la création, nous ne pouvons pas renoncer à ce type d'argumentation. Que les chrétiens soient 1%, 10%, 80% d'une société, qu'on soit au Japon, en Norvège, au Koweït ou en France, nous aurons toujours à intervenir au nom de la raison créée qui fait que nous postulons l'existence d'une raison commune et d'une bonté commune et du fait que nous parlons le noble, le juste, le vrai. Nous pouvons, au moins tendanciellement, nous comprendre. Alors le problème vient quand il se trouve que nous rencontrons des gens en face, dont certains peuvent être sympathiques, intelligents, bien disposés, qui disent « nous ne sommes pas d'accord avec vous ». Alors en général, le jeune étudiant catholique a un problème. Enfin, réfléchissez, écoutez bien votre cœur, vous devriez voir que l'avortement, c'est pas bien. L'autre dit « mais je vois pas où est le problème ». Alors là, on a un problème. Et c'est là où la deuxième position est très importante. C'est-à-dire que la position apocalyptique dit « il y a du mal dans le monde », dit autrement « on peut durablement s'illusionner sur le bien. Même si nous avons une capacité donnée par Dieu au bien, nous pouvons nous tromper. Enfin, le monde, on peut se tromper dans le monde. Donc, quand nos frères évangéliques nous disent « mais pour voir clair sur la vie, sur le monde, il faut quand même croire en Dieu, croire en Jésus, ça change un peu les choses. » Ils n'ont pas entièrement tort. Parce que par moment, le petit défaut de la position catholique, ou du grand rabbin Gilles Bernheim, qui était plus catholique que les catholiques, ce qui lui a valu quelques problèmes, le malheureux, et pour cause, parce que non seulement il reprenait des arguments catholiques, mais il les reprenait verbatim, c'est que, qu'est-ce que le Christ vient changer? Si vous avez une théologie de la création sans théologie de la rédemption, tout est là, on argumente, la raison, tout ça, puis hop, petit A, petit B, petit C, conclusion. Non, non, mais on ne met pas le Christ là-dedans, on n'a pas besoin du Christ. Oui, pas besoin du Christ, sauf que le Christ vient quand même nous aider à y voir plus clair. Donc, si cet ordre voulu par Dieu, si vous voulez, était parfaitement limpide, clair et net, je veux dire, pourquoi la rédemption? Pourquoi l'Esprit-Saint? Pourquoi, pourquoi le Christ? Donc, c'est pour ça que moi je suis un grand, grand défenseur d'un concept absolument génial qui s'appelle le péché originel. Capital! Absolument capital. Parce qu'il tient deux choses, le péché originel. La bonté du créé originel et l'existence d'un mal radical dans le monde. Il y a du mal dans le monde, on ne peut pas le nier. Bon. Alors, Paul Ricoeur a écrit des pages géniales pour reformuler ça, de manière philosophique, sur comment tenir ensemble la bonté originelle et le mal radical, voilà, pour le dire avec ses mots à lui. Donc tant Jésus, la Bible en général, que Jésus, moi ça me frappe de plus en plus à quel point Jésus est équilibré sur cette question. C'est pas du tout uniquement un Qumranien, un prophète eschatologie qui dit les fils de la lumière. Parfois Jésus parle des fils de la lumière. Ah, si les fils de la lumière pouvaient être aussi intelligents que les fils des ténèbres pour leurs calculs, le monde se porterait mieux. Hein? Bon. Donc de temps en temps, Jésus a ce langage apocalyptique Qumranien. Enfin, c'est pas si fréquent. En règle générale, Jésus, c'est le gros bon sens près de chez vous. C'est-à-dire un argument de raison, la création. Voilà. Pourquoi que votre oui soit oui, que votre non soit non, comme je le disais la dernière fois? Parce qu'on est créé pour. Pourquoi il faut dire, on est créé pour. Bon. Donc Jésus argumente, à l'origine, hein, l'homme et la femme. Alors à l'origine, Dieu a dit, voilà, et l'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère, abandonnera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, tout de suite. Mais voilà, c'est bon, c'est possible, c'est écrit, on est fabriqué pour. C'est des arguments de création. Il ne fait pas appel à l'eschatologie. Et Paul tient les deux. Alors, je pense, c'est pour ça que l'intuition de Paul Lamarche, de ce jésuite de 77, et de cette exégète féministe Judith Gundry-Wolf, est juste, c'est-à-dire que, dans leur esprit, l'idéal de Paul et de Jésus derrière, c'est de supprimer dans le rapport homme-femme tout ce qui est marqué par le péché, pas la différence en soi. Parce que d'ailleurs, à ce compte-là, ce qui va être une position tenue par certains groupes chrétiens, comme les montanistes, il faut interdire le mariage, par exemple. L'église montaniste, elle a survécu 3 siècles sans mariage, il faut le faire, uniquement par conversion d'adultes. Position ancratiste, on appelle ça en théologie, ancratiste. Donc le mariage en soi est une mauvaise chose. Position qui a eu beaucoup de partisans. Donc une position ultra-apocalyptique, si vous voulez. Tout ça, ça fait partie des choses qui ne vont pas, parce qu'ils voient que dans le mariage, eh ben, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a beaucoup de soumission, beaucoup d'injustice, beaucoup de femmes écrasées par leur mari. Donc d'ailleurs, chez les montanistes, les femmes ont un rôle très important. Il y a des femmes prophètes, des femmes qui sont chefs d'église, etc. Égalité totale. Voilà. Et ils reprochent à la grande église, elle est patriarcale. Bon. D'ailleurs, elle autorise le mariage, qui est patriarcal, comme on va le voir. Bon, donc, si vous voulez, vous voyez la tendance apocalyptique d'un côté, et la tendance, la création est bonne, le mariage en soi, c'est une bonne chose, etc., etc. Donc, Paul, dans ses lettres, voilà. Alors, dans les premières lettres, à mon avis, il tient d'abord cet idéal, création nouvelle, ça veut dire non pas annulation de la première création, mais restauration de la première création dans un dessein de respect des différences dans l'humilité mutuelle, dans la soumission mutuelle. Donc, le dessein primordial de Dieu est remis en pleine lumière. Paul ne nie pas tout ce qu'il y a de bon dans le monde créé, mais par le baptême est effacé ce qui était déformé par le péché. Alors, j'avais expliqué l'histoire des cheveux. Bon. Donc, comment Paul peut tenir le fait qu'il y a une égalité radicale devant Dieu des hommes et des femmes dans l'assemblée chrétienne? Donc la femme peut prier, prophétiser, etc., etc. Et en même temps, il faut qu'elle reste femme, quoi. Alors là, c'est là où il a des arguments un peu de son temps. Il dit, bon, les femmes, ça a les cheveux longs, et si ça pas... Et sinon, c'est des prostituées, les tondues. Tout le monde sait ça. Bon, donc elle a les cheveux longs, ou un voile, enfin bref, voilà. Et les hommes ne doivent pas avoir les cheveux longs. Bon. Ce qui était un point où les juifs s'opposaient aux païens, souvent. Bon. Donc, il y a bien une différence. Et elle est culturellement repérable, on va dire. Alors, il dit « la nature nous enseigne ». On voit bien que c'est une nature très culturelle, puisqu'on peut imaginer des sociétés où c'est différent. Donc, le point, c'est pas tant cheveux longs, cheveux courts, que la femme ne doit pas faire comme si elle était un homme, et vice-versa. Voilà, donc, pour moi, Paul n'est pas du tout contradictoire entre Galates 3.28 et 1 Corinthiens 11. Alors, justement, des gens ont dit, certaines femmes de Corinthe n'avaient pas exactement compris ce qu'il voulait dire. Elles avaient compris ces formules pauliniennes, comme j'ai défendu l'idée, non pas pré-pauliniennes, ces formules d'égalité, il n'y a plus l'homme et la femme. Puisqu'il n'y a plus l'homme et la femme, on peut, le mâle et la femelle, tout ça n'a plus, enfin, chacun fait un peu ce qu'il veut. Alors Paul dit non, pas du tout, ils n'ont rien compris. Bon. Alors, un argument important à l'appui de la théorie Lamarche-Gundry que je défends, c'est le couple de Colossiens 3.11. Parce que vous vous souvenez, on avait 4 pères dans Colossiens 3.11. On avait circoncis, incirconcis. Il n'y a plus de grecs ou de juifs, de circoncision ou d'incirconcision, de barbares, de scythes, d'esclaves, d'hommes libres. Alors ce qui est un peu marrant, c'est que là, Paul, de nouveau, fait une rupture de construction entre les deux premières paires et les deux suivantes. Mais on voit bien qu'il s'agit de paires, puisque esclave et homme libre, eh bien la deuxième que nous connaissons par Galate. Alors, barbare ou scythe ? Alors là, j'avais lu un article au moment de ma thèse intéressant, parce que bon, barbare ou scythe, c'est quand même un peu mystérieux. Donc on avait vu, bon, pour les Grecs, les autres sont des barbares, donc le couple c'est grec-barbare. Bon. Et alors les scythes, qu'est-ce qu'ils viennent faire là-bas, hein ? Vous vous souvenez, les scythes, c'est donc, on en parle, c'est la Crimée. Les gens de Crimée. Une peuplade de Crimée. Alors, cet auteur est allé voir dans toute la littérature grecque de moins 200 à plus 300 à quoi correspondent les scythes et si on trouve des couples scythes-barbares. Et sa proposition, c'est que ça désigne probablement le couple ici noir-blanc. Parce que barbare pouvait être employé pour parler des Éthiopiens, des Couchites, et scythe pour dire, si vous voulez, comme on dirait aux États-Unis, Caucasian, hein, les Caucasiens, les blancs du Nord, les blonds, là, les gens vraiment bien blonds, bien nordiques. Donc les blonds et les noirs, les blancs et les noirs. Alors vous voyez que si on demande aux blancs et aux noirs de cesser d'être blancs et noirs, ça commence à devenir compliqué. Notez, il paraît qu'il y a des produits magiques sur les marchés africains où les femmes noires deviennent blanches, etc. Et puis alors les femmes blanches vont sur les plages pour devenir noires. Enfin, c'est quand même compliqué. Ça dure pas longtemps et ça donne beaucoup de dégâts. Bon. Donc, si vous voulez, si Paul dit il n'y a plus de blanc et de noir, comprenez, ça veut dire il n'y a plus de distinction dans la communauté basée sur la couleur ou l'identité, etc. Donc, Paul ne demande pas plus aux femmes de cesser d'être femmes qu'il ne demande aux noirs de devenir blancs. C'est la grande différence avec les gnostiques. Je vous avais dit, ou Marie, dans le Logion 114, ah ben je l'ai là, tiens le Logion, hein. Que Marie sorte de parmi nous parce que les femmes ne sont pas dignes de la vie, tenez-vous bien. Jésus dit, voici que je l'attirerai afin de la faire mâle, pour qu'elle soit elle aussi un esprit vivant semblable à vous les mâles, car toute femme qui se fera mâle entrera dans le royaume des cieux. Alors pour moi, c'est un Logion qui disqualifie radicalement l'évangile de Thomas quand même. Bon. Toute femme qui se fera mâle, toute femelle, on pourrait dire, entrera dans le royaume des cieux. Donc là, effectivement, la différence est niée, il faut que tout le monde soit d'un type, mettons mâle, pour entrer dans le royaume. Alors là où ça devient plus subtil, de même, en un sens, Paul ne demande pas aux Juifs de cesser de l'être, en un certain sens. Et lui-même continue de l'être. On ne va pas nier son identité. Il leur demande de renoncer à ce qui, dans leur identité, alors c'est beaucoup, là il faut peser les choses, de fait c'est beaucoup, repose sur la distinction d'avec les païens, toutes les lois rituelles. De faire une seule famille avec les croyants d'origine païenne. Donc c'est là où je suis d'accord avec ceux qui disent, bon, quand même à terme c'est un peu la fin d'Israël ça, parce que ça veut dire qu'on peut épouser des non-juifs, qu'on doit aller manger chez d'autres gens de la communauté qui ne respectent pas la cacheroute, donc des règles que vous pratiquez uniquement chez vous à ce niveau-là, ça n'a plus beaucoup de sens. Mais qu'on puisse se dire descendant voilà, d'Israël ou membre d'Israël n'est pas en soi mauvais, il manquerait plus que ça. Donc Paul n'entend pas effectuer une déclaration abstraite sur l'ordre de la création et donner une maxime universelle valable dans tous les domaines. L'unité dans la communauté n'est pas une masse informe, désexualisée, où toutes les différences sont effacées. Ce qui est un procès contemporain à Paul chez certains philosophes. Il faut savoir ça. Son souci, quel est le souci principal de Paul ? Je l'ai reformulé comme ça, pour moi, pendant toute sa vie. Le souci principal de Paul, c'est l'unité réelle des Juifs et des païens dans une unique communauté eschatologique, dans une unique communauté de foi et de confession. Alors le couple principal, j'insiste, des Juifs et des païens, c'est là où le front a été le plus important dans sa vie. Ça inclut l'unité des esclaves et des hommes libres, des blancs et des noirs, des hommes et des femmes, des grands et des petits, des boiteux et des pas boiteux, on peut ajouter tous les couples. Enfin, la base, c'est ça. Une unité réelle. Des riches et des pauvres aussi, puisqu'il faut que les riches donnent de leur pauvreté. Bon. Ce souci a des conséquences pour les hommes et les femmes. Et tous deux, on part au même sacrement de la même façon. L'accent, pour moi, donc là je reprends les exégèses qui disent ça, est clairement, si vous voulez, d'abord l'égalité devant Dieu. Dieu a agi dans le Christ pour faire venir au jour une communauté nouvelle, la famille des enfants de Dieu, l'Église, dans laquelle tous sont un dans le corps du Christ. Voilà l'idéal paulinien. Tous forment un seul corps, un seul homme nouveau. Et d'un autre côté, comment cette unité religieuse ne pourrait pas avoir d'effet dans la vie concrète des gens et des communautés? En plus, c'est l'exemple que je prenais. Vous pouvez, mais c'est difficile en termes d'écart axiologique, battre votre esclave à 17h et communier avec lui à 19. La même chose avec votre femme. D'ailleurs, battre votre femme à 17h et partager l'Eucharistie avec elle à 19 le samedi. C'est un peu contradictoire. Ou alors, traiter votre femme exactement comme un pater familias romain de mauvais poil pendant la semaine et entendre le dimanche des textes évangéliques ou peu importe, ou paulinien assez vite, disant « Soyez soumis les uns aux autres, remplis d'un esprit de douceur, etc. etc. » Donc, on peut penser que l'égalité devant Dieu va avoir un impact communautaire. Bon, enfin, vous savez tous comme moi qu'il y a eu l'apartheid pendant je ne sais pas combien d'années en Afrique du Sud, qu'en Inde, jusqu'aux années 60, dans les diocèses du Sud, vous aviez les bancs pour intouchables et puis les bancs pour pas intouchables, et qu'il ne fallait surtout pas que l'intouchable se mette au premier rang, etc. etc. Donc il y a du chemin à faire, je suis bien d'accord. Mais enfin, ça a de là, au bout d'un moment, quand même, ça mord sur le réel. Donc, pour ce qui est des esclaves, dans la lettre à Philémon, « Accueille-le non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. » Paul ne dit pas « Bon, esclave, ça n'existe plus. » Non, il lui écrit une lettre spéciale pour lui dire « Bon, je sais bien que c'est ton esclave et tout, mais je te demande de l'accueillir. » La démarche repose sur la conscience de Philémon, elle n'est pas automatique, mais quand même, elle va avoir un impact. Donc ce passage se situe au centre de la lettre aux Galates. Il n'est pas périphérique par rapport à l'argumentation de Galates, et là je rejoins les exégètes féministes. Ce troisième couple a tout à fait à voir avec l'argument de Galates. Tout comme d'ailleurs le couple esclave-homme libre, puisque toute la lettre de Galates c'est « Soyez libre, le Christ vous a libéré, soyez libre », etc. Donc c'est pas du tout « Tiens, en passant, je mentionne esclave et homme libre ». Donc ça c'était un peu ma dernière et sixième question. Donc, ce passage se situe presque au centre de la lettre, dans un moment capital. Il vise une égalité de tous dans la foi, qui est au cœur de la vie unanime de l'argumentation de la lettre aux Galates. Tous les arguments de Paul visent à démontrer que avant comme après le don de la foi, juifs et païens sont unis, entre guillemets. Avant, ils partageaient le même esclavage. Ils étaient sous quelque chose. Les juifs étaient sous la loi et les païens étaient sous le péché, ou sous les éléments du monde. Sensibles à leur calendrier, à leurs faux dieux, à leurs idoles, à leurs esprits, etc. Traduisez. Maintenant, ils sont appelés à partager la même filiation dans le Christ. Alors, cet équilibre paulinien, qui est traduit dans 1 Corinthiens 7 notamment, et Galates 3, et 1 Corinthiens 12, va évoluer. Alors d'abord, dans les deutéro-pauliniennes, Éphésiens et Colossiens, donc dans le fameux texte qui est lu à tous les mariages catholiques pendant 5 siècles, donc Éphésiens 5, Éphésiens 5, regardons bien. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Bon. Donc, la phrase initiale, elle est pour tout le monde. Et ça, c'est la clé de sol qui correspond à 1 Corinthiens 7. Alors, après, ce qu'on va reprocher à l'auteur de la lettre aux Éphésiens, aujourd'hui, c'est de dire pourquoi tu exprimes différemment les choses entre l'homme et la femme. Que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur, en effet le mari est chef de sa femme comme le Christ est chef de l'Église, lui le sauveur du corps, ce qui est une paraphrase de Paul dans 1 Corinthiens 11, vous vous souvenez, sur les cheveux. Or l'Église se soumet au Christ, les femmes doivent donc de la même manière se soumettre en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, ce qui quand on y réfléchit, pas mal non plus comme challenge. Afin de la sanctifier en la purifiant, etc. De la même façon, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Nul n'a jamais détesté sa propre chair. On la nourrit, on en prend soin. C'est ce que le Christ fait pour l'Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps? Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère. Ce mystère est de grande portée, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Bref, un long raisonnement, même, femme, mari, bref, en ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-même, que la femme révère son mari. Alors, chacun, on voit que la lettre est plutôt adressée à des hommes. Chacun aime sa femme, que la femme révère. Mais enfin, on a quand même encore cette réciprocité, y compris dans le poids des versets d'ailleurs. Alors, on reproche à cet auteur, une fois de plus, de distinguer. Mais enfin, il le fait quand même de manière très belle, parce que il donne un défi au mari qui est quand même à peu près de même niveau que ce qui est donné aux femmes, en fait. Enfin, c'est le verset 23a qui nous embête un peu. Bon. Le mari, chef de sa femme, etc. Bon. Dans Colossiens 3, 18, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il se doit dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne leur montrez point d'humeur. » On commence toujours par les femmes, mais il y a toujours un verset pour chacun. Mais on n'a pas le « soyez soumis les uns aux autres » au début, qu'on aimerait bien, comme dans Corinthiens. Enfin, une phrase un peu qui insiste sur l'aspect, si vous voulez, d'égalité eschatologique, l'aspect un peu non patriarcal, l'aspect un peu plus du premier pôle dont je parlais tout à l'heure. « Enfants, obéissez en tout à vos parents. Parents, n'exaspérez pas vos enfants. » C'est ce fameux passage que les enfants aiment bien. « Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres d'ici-bas. » Alors là, il y a un long développement sur les esclaves. « Maîtres, accordez à vos esclaves le juste et l'équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître au ciel. » Sous-entendu, vous aussi, vous êtes esclaves. Enfin, il y a 22-25, il y a 4 versets pour les esclaves et un seul pour les maîtres. Bon, donc, on va dire pour aujourd'hui, c'est un peu moins bien, mais ça va encore. Bon, alors là où ça se gâte, c'est dans la première à Timothée. 1 Timothée 2, 9 et suivant. Accrochez-vous. Alors, on ne lit jamais ça le dimanche. Hein. Nos pieux liturges, d'après le Concile, on dit non ça. Même en semaine, d'ailleurs, c'est réservé la lectio divina des moines à 3 heures du matin. Pas trop de risques au plan communautaire. Que les femmes de même, alors, je demande qu'on prie pour les autorités, les rois et tous les dépositaires d'autorité, de, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible. Voici ce qui est bon, etc. Donc, les autorités. Que les femmes de même aient une tenue décente, ça va. Que leur parure modeste et réservée ne soit pas faite de cheveux tressés, d'or, de pierreries, de somptueuses toilettes. Bon là, pensez à l'Apocalypse et au commerce, enfin, ou à l'ouverture des soldes à Paris, d'ailleurs, je dis ça. Enfin, bon. Mais bien plutôt de bonnes œuvres, ainsi qu'il convient à des femmes qui font profession de piété. Pendant l'instruction, la femme doit garder le silence en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de faire la loi à l'homme qu'elle garde le silence. Alors ça, ce serait, vous avez compris le raisonnement majoritaire de beaucoup aujourd'hui, la base et la source de ce qui va arriver en 1 Corinthiens 14, 34, 36, que les femmes se taisent dans les assemblées. Mulieres taceant in assemblée. Ce verset-là serait rétroprojeté d'une pratique des années 90 qu'on retrouve dans Timothée, où on a quand même durci et contredit pour le coup Paul qui n'a jamais dit ça. Alors là, le raisonnement va être encore plus fabuleux que sur le coup des cheveux chez Paul. C'est Adam, en effet, qui fut formé le premier, Ève ensuite. Bon, la belle affaire, oui, d'accord. C'est pas vrai. Ce n'est pas Adam qui se laissa séduire, mais la femme qui séduite se rendit coupable de transgression. Alors, le bouquet est final. Je vous lis la BJ, dernière édition. Néanmoins, la femme sera sauvée en devenant mère, à condition de persévérer avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté. Alors, c'est un verset sur lequel les protestants sont très, très embarrassés. Alors nous, les catholiques, on n'est pas très embarrassés, parce qu'on a un principe qui s'appelle le principe d'équilibre de la foi et du magistère, qui fait qu'on dit, bon, il y a ça, mais enfin, c'est moins important que d'autres choses, donc on met ça pieusement sous le tapis. Mais les protestants ont leur idée, toute l'écriture, alors là, ils ont un gros problème, parce que, quand même, on est sauvé par la foi. Point. Tout le monde, hein, point. Bon. Alors la femme, il y a une condition supplémentaire, il faut qu'elle ait des enfants. Alors là, ça complique quand même les données du problème. Alors, vous avez deux manières de vous en tirer, enfin deux manières principales, il y a deux manières principales de s'en tirer avec ce passage. Le premier, je l'avais découvert grâce à un pasteur américain qui avait eu un an de travail payé par son église pour travailler cette question, qui a donné un gros article là-dessus, dans lequel il propose une nouvelle traduction du verset. Et il a des arguments vraiment puissants. Alors je vais voir s'il va être suivi. L'idée c'est, il y avait à l'époque un topos extrêmement diffusé, donc un lieu commun, qui est celui de l'engendrement des vertus. C'est-à-dire que il faut engendrer les vertus. L'homme et la femme, on engendre les vertus, on engendre ou on enfante. Donc, il y a un terme qui est dans le texte, parce que là, c'est cette traduction-là. Mais on pourrait traduire, hein. La femme sera sauvée à condition d'engendrer la foi, la charité et la sainteté avec persévérance. Donc l'idée, c'est métaphorique, c'est-à-dire les enfants de la femme sont ses vertus, comme d'ailleurs des hommes. Mais l'auteur détournerait un topos du temps sur l'engendrement des vertus pour dire voilà ce dont il s'agit de devenir mère. Parce que, de toute façon, à l'époque, on sait très bien, il y a des vierges, il y a des veuves, enfin, il n'y a jamais eu cette idée qu'on est sauvé en devenant mère. Donc, on dit qu'au premier degré, ça paraît extrêmement bizarre. Vous voyez ? Donc, c'est une solution dans laquelle il respecte la parole de Dieu et il fait un travail. C'est une proposition défendable. C'est une hypothèse qui n'est peut-être pas forcément la bonne, mais enfin, qui est tenable. C'est pas farfelu. Un gros, gros, gros dossier dans lequel il montre la prégnance à l'époque du terme de l'engendrement des vertus. Et en grec, ça marche. Il y a un petit forçage, mais pas tant que ça. La deuxième piste pour sauver ce verset est précisément et le contexte de l'époque autour du mariage. Et là, nous avons des échos par d'autres textes de la même époque dans lequel il semblerait que décidément, madame, le ministre de l'Intérieur en comparaison. Hein. Alors, c'est vous, c'est pas vous, c'est qui? Elle aura besoin d'une leçon de choses à la pause. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'époque? Alors, vous voulez savoir ce qui se passe à l'époque? Vous lisez 2 Timothée 3. Dans les derniers jours, surviendront des moments difficiles. Bon, les hommes, en effet, ces nouveaux, seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs, effrontés, orgueilleux, amis de la volupté plus que de Dieu, ayant les apparences de la piété, mais reniant ce qui en est la force. Ça s'appelle un catalogue de vices. Lasten catalogue. Alors, ils sont bien du nombre ceux qui s'introduisent dans les maisons et envoûtent les femmelettes. Alors là, il y a un terme en grec, hein, bon. Chargés de péchés, entraînés par toutes sortes de passions, qui toujours à s'instruire ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. Bon. Alors l'idée, c'est qu'à l'époque, il y avait, si vous voulez, ces premiers prédicateurs gnostiques qui arrivent et qui ont un enseignement ciblé en direction des femmes. Dans lequel, en particulier, il y a une tendance à l'ancratisme, dont je parlais tout à l'heure. Bon. Une fois de plus, connaissant les conditions un petit peu sordides de beaucoup de mariages, à l'époque, virgule, naturellement, tout a changé aujourd'hui, vous pouvez comprendre pourquoi certaines femmes étaient intéressées par ce type de discours très spiritualiste, très désincarné, très spirituel, et dans lequel on leur expliquait que non, il faut mettre tout ça de côté et maintenant entrer dans la vie des purs esprits, des enfants de Dieu. Et donc, l'auteur de la lettre à Timothée parle en fait aux femmes mariées ici. Et leur dit, non, vous restez dans le mariage, vous élevez vos enfants et tout ira bien. Et c'est ça qu'il faut faire devant Dieu. Donc il s'agirait déjà d'une de ces premières défenses du mariage que vont devoir faire beaucoup de pères de l'Église à partir du début du IIe siècle jusqu'au Ve siècle, face à des adversaires proto-gnostiques attaquant le mariage. C'est une autre manière de défendre le verset en tenant le sens obvi, le pshat, c'est-à-dire en devenant mère, oui, en devenant mère. Mais évidemment, ce n'est pas une condition en absolu. Il parle aux femmes mariées. Entre parenthèses, c'est la position encore aujourd'hui du droit canon. Enfin, si vous vous mariez, je me souviens dans cette salle, ils étaient là, je me souviens très bien, avec le père Pierre Faure, un week-end de préparation au mariage il y a 10 ans. On avait un petit couple là, très sympathique, 24-23 ans, qui nous disait, voilà, nous on a décidé de consacrer notre vie à l'humanitaire, tout ça, c'était des gens très marqués par Thésée, on n'aura pas d'enfants, tout ça. Alors, on était un peu embêtés parce qu'on connaît notre droit canon, et puis je me souviens, Pierre Faure avait passé une heure à la pause à discuter avec eux. En disant, ils étaient très, très dans leur idée, quoi. On a dit, non, il y a un problème, là. Il va y avoir un problème. Ils ne peuvent pas se marier à l'église, comme vous savez. Vous savez ça? Bon. Donc, canoniquement, si vous refusez d'avoir des enfants en étant marié, il y a un problème. Donc, pourquoi? Parce qu'on peut avoir des enfants et être sauvé. Ce n'est pas le problème. Au contraire. Donc, j'ai essayé de vous tracer un peu la trajectoire, l'idéal premier de Paul, avec ses formulations très réciproques, et au niveau des deutéropauliniennes et des pastorales, une église qui est plus patriarcale, pour être honnête, qui est plus du côté du pôle du monde ordonné par Dieu et on fait comme les choses sont ordonnées. Ça manque un peu d'Apocalypse, si vous voulez, Tite et Timothée. Esclaves, obéissez à vos maîtres, enfants, obéissez à vos parents, bon, obéissez aux autorités, aux rois, tout ça, oui. Enfin, voilà, alors vous voyez... vous êtes en Allemagne en 1942, vous voyez, le fameux Jägerstätter. Moi, j'ai prêté serment de fidélité au Führer, donc bon, j'obéis à mon serment. Mais il va te faire tuer 100 juifs, là, en Ukraine, dans le village, tu obéis aux ordres. Oui, j'ai prêté serment, j'obéis aux autorités, les autorités viennent de Dieu, fin du discours. Mais non, il y a une conscience, au bout d'un moment, il faut dire, ça, il y a un pouvoir qui est démoniaque, Il y a une autorité qui est injuste. Voilà. Alors, dans la tradition de la théologie politique de l'Église, on est très réticent à entrer dans une révolte armée, violente, contre le tyran. Alors, il y a une congrégation qui s'est fait quasiment dissoudre parce qu'elle a tenu saint Thomas d'Aquin jusqu'au bout, c'est les jésuites, contre les Bourbons. Les Bourbons ont mis 40 ans à avoir notre peau, mais ils l'ont eu. Et dans le rapport secret du Premier ministre espagnol Campomanes à Charles III, à la fin, pour convaincre ce roi pieux, et dont la mère était une grande amie des jésuites, de supprimer les jésuites, on insiste là-dedans. Ils disent qu'on peut assassiner les tyrans. Alors, c'est le paragraphe 474, alinéa 2 d'un tome de 2000 volumes. Oui, très bien, c'est marqué là. Oui, c'est Thomas l'a dit déjà. À un moment donné, le serment d'obéissance aux autorités tombe. Pensez au STO pendant la guerre, etc. Aux gens qui ont dit, ben, à un moment donné, on peut rentrer en dissidence. Les conditions pour entrer en dissidence sont extrêmement précises en théologie morale catholique. Et il faut vraiment que la barre pousse très très loin pour qu'on admette qu'on lance un ordre à l'insurrection, d'assassinat du tyran ou de l'insurrection, c'est-à-dire le refus de payer l'impôt et d'obéir aux autorités. Donc quand je prends des cas récents, Zimbabwe 2002, bon, super inflation, 87 membres du parti de Tsvangirai sont battus à mort, assassinés dans les rues, trucage massif aux élections, dictature, bon, etc. Les évêques n'ont pas dit, on décharge les officiers catholiques, il faut lancer la révolution, on n'obéit plus au gouvernement. Ils ont dit, bon, il faut faire ce qu'on peut pour sauver, etc. Mais rentrer dans une guerre civile, qui aurait été une guerre tribale, rentrer dans l'anarchie, rentrer dans une situation à la rwandaise ou à la somalienne, c'est à éviter. Voilà. Face à la taxis contre l'anarchie, l'ordre contre l'anarchie, on va privilégier longtemps l'ordre. Alors moi, c'est ce que je dis aux salafistes de Syrie. Ils n'ont pas lu saint Thomas d'Aquin. Ils ont lancé la révolte armée, au moins en n'ayant pas 3 des 4 conditions minimales de saint Thomas d'Aquin. Et je suis extrêmement sérieux en disant ça. Et le résultat final pour ceux qu'ils veulent défendre et pour leur pays, sont des dizaines et des dizaines de milliers de morts et de disparus. Une des conditions de saint Thomas d'Aquin pour un coup d'État, c'est d'ailleurs ce que certains confesseurs ont dit à Franco et à Mola. Franco est arrivé, comme vous savez, après l'accident d'avion du général Sanjurjo et de Mola. Il faut qu'un coup d'État réussisse vite. Il faut avoir une certitude morale de la réussite du coup d'État. La situation est désespérée ou dramatique. Des milliers de vies sont en cause. les chances de succès sont très importantes et le bien qui en est espéré à la fin est considérablement plus important que le mal qui va être fait pour provoquer ce bien. C'est un peu comme les conditions de la guerre en doctrine morale catholique. Il faut vraiment être persuadé qu'il y a toutes les solutions diplomatiques ont été épuisées. Ne rien faire serait provoquer encore plus de morts et de dégâts pour les populations. L'espérance de vaincre est forte, etc., etc. Toutes ces conditions sont nécessaires avant de s'engager dans un conflit armé. Tout ça, ça vient directement de cette tension biblique voilà, que les théologiens juifs, que ce soit d'Alexandrie ou de Judée, élaboraient à l'époque. Voilà. Donc, en conclusion, Paul avait une vision fidèle au respect de la femme que Jésus avait, je crois profondément, une vision dans laquelle il y a place pour le mariage avec une soumission mutuelle des époux. Pour lui, le fait que tous les baptisés, juifs et grecs, esclaves et hommes libres, hommes et femmes, aient le même baptême et participent au même sacrement, boivent à la même coupe, était le point fondamental. L'égalité fondamentale coram Deo devant Dieu. Pour autant, Paul ne prêchait pas une espèce d'égalitarisme indistinct ou de suppression des différences en soi, ou ne considérait pas que les différences étaient en soi mauvaises. Il ne voulait pas que ces communautés donnent des exemples d'une contestation frontale de la société sur ce point, et Romains 13 et de Paul, malgré que certains théologiens protestants, il y a 100 ans, essayaient de dire que c'était une interpolation, ça ne tient pas. Et plus tard, ses disciples ont surenchéri sur cette insertion sociale, engagés qu'ils étaient dans une lutte, il faut le penser aussi, extrêmement difficile pour que leur nouvelle religion soit tolérée. Bon. Qu'ils ne soient pas perçus comme une secte millénariste apocalyptique à éliminer d'urgence, que de toute façon, on ne va pas échapper aux persécutions. Pour conclure, d'un mot, cette tension chez Jésus, ça me revient un des éléments les plus nets de cette tension. Jésus, il a dit deux choses. Il a dit, au début du sermon sur la montagne, « Quand les hommes verront tout le bien, toutes vos bonnes œuvres, ils rendront gloire à Dieu, votre Père qui est aux cieux. » Non, vous voyez ce verset? Donc l'idée, c'est que les autres hommes peuvent voir le bien que vous faites. Pourquoi? Ça veut dire que le mot « bien », il va être compris par eux. C'est le juste, le noble, le vrai, le bon, dont je parlais tout à l'heure. Par contre, ailleurs, il dit « Malheureux êtes-vous quand les hommes disent du bien de vous, car c'est ainsi que leur père traitait les faux prophètes. Et heureux êtes-vous quand les hommes diront du mal de vous, car ainsi, je finis le raisonnement de Jésus, leur père traitait les vrais prophètes. » Ça, c'est le Jésus apocalyptique qui dit « Les vrais prophètes, ils finissent au fond des piscines. » Comme Jérémie, si en deux, comme Isaïe, c'est para-biblique, mais tout le monde le croyait au temps de Jésus, ou, autre épisode que Jésus va citer, il faut très bien connaître sa Bible, Livre des Chroniques, comme le sang répandu depuis Abel le Juste, jusqu'au sang de Baraki, fils de Zacharie, assassiné entre le temple et l'autel. Bon, ça c'est dans le Livre des Chroniques, c'est un prêtre à un moment qui prophétise au nom de Dieu pour le peuple et contre le roi en disant « Il faut vous convertir, ça ne va pas du tout, ça va mal dans le pays » et il est assassiné comme Thomas Becket dans sa cathédrale. Donc, il y a des Thomas Becket qui sont assassinés dans leur cathédrale. Voilà. Jésus il dit ça aussi. Donc il y a cette tension. Par certains côtés, le bien est un langage commun que nous avons avec les gens et en même temps le monde est ainsi fait que le péché est là et que les vrais prophètes sont maltraités. Voilà. Alors, il faut tenir les deux Jésus, si je puis dire. Les deux discours de Jésus, le discours de sagesse et le discours apocalyptique, le discours de condamnation du monde, génération adultère et pervertie, un discours qui dit « il va y avoir un jugement », comme dit le Talmud, « il y a un juge, il y a un jugement hein ». Donc, ceux qui ont commis des crimes seront jugés. Il y a une géhenne de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, etc., etc., etc. Donc, il y a un jugement, et en même temps, il y a une bonté du monde. Alors, comme vous savez, l'évangéliste Jean, il a eu cette idée géniale que le monde, ça veut dire les deux. Et alors, les exégètes s'arrachent les cheveux depuis 2000 ans, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ça c'est le monde qui vient. Et puis, il y a le monde qui ne peut pas recevoir la vérité du Messie parce que le monde est dans les ténèbres. Alors les catéchètes ont dit, écrit des lettres à l'évangéliste Jean, disant « Jean, c'est pas terrible ton truc, on se mélange. Tu pourrais employer un mot pour une chose et un mot pour une autre. » Mais Jean, il a écrit ce qu'il a écrit. Voilà. Donc Paul, c'est aussi concomitant dans ses lettres. Voilà. Voilà, on va arrêter là, on va faire la pause, mais vous voyez que nous avons touché avec cette question du verset Galates 3.28 et du rapport homme-femme, une tension théologique consubstantielle à la foi biblique et au christianisme. Et qu'on retrouve dans les propos de Jésus, dans les propos de Paul, de Pierre ou des deutéropauliniens. Pause jusqu'à 10. Voilà, voilà. Donc nous allons petit à petit reprendre. Donc l'égalité entre chrétiens. Le point 5, c'est finalement Paul et le mystère d'Israël, Paul et les Juifs. Alors j'ai déjà dit que le souci principal durant la vie de Paul a été l'unité concrète dans une seule communauté, dans une seule église, des Juifs et des païens. Bon, ça, ce n'est pas un scoop, c'est pas le scoop du siècle. C'est ça l'axe central. Alors, comment comprendre le chemin qui va de 1 Thessaloniciens 2, 14-16 à Romains 9, 11 ? C'est ça que j'avais annoncé. Hein. Alors, de la première lettre de Paul à la dernière lettre de Paul, hein, sur un espace de 7-8 ans, hein, entre 50 et 58. Alors, il faut bien lire les deux passages. Alors, 1 Thessaloniciens 2, 14, 16. Qui est une lettre heureuse, joyeuse, irénique, action de grâce, félicitations, vraiment. Vous êtes prié d'éteindre vos portables avant le décollage. Merci. Donc, je veux dire, on est dans un contexte plutôt tranquille et serein. Il y a eu des persécutions. Alors, voilà ce que ça donne. Bon, je commence au 13. Voilà pourquoi, de notre côté, nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. De ce que, une fois reçue la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie non comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu. Et cette parole reste active en vous, les croyants. Car vous vous êtes mis, frères, à imiter les églises de Dieu dans le Christ Jésus qui sont en Judée. Le thème de l'imitation est très important chez Paul. Hein. Imitez-moi comme j'imite moi-même le Christ. Bon. Alors, imiter les églises en quoi ? Ça va être dans l'endurance dans les persécutions. Vous imitez les églises de Dieu dans le Christ Jésus qui sont en Judée. Vous avez souffert de la part de vos compatriotes, comprenez les co-citoyens de Thessalonique, les mêmes traitements qu'ils ont souffert de la part des Juifs. Ces gens-là ont mis à mort Jésus le Seigneur et les prophètes, ils nous ont persécutés, ils ne plaisent pas à Dieu, ils sont ennemis de tous les hommes quand ils nous empêchent de prêcher aux païens pour leur salut, mettant ainsi en tout temps le comble à leur péché, elle est tombée sur eux la colère à la fin. Alors, les exégètes américains disent « outburst of anger », exclamation de colère. Et nous, frères, privés de votre compagnie pour un moment de visage, mais non de cœur, nous nous sommes sentis extrêmement pressés de revoir votre visage tant notre désir était vif. Alors là, on revient dans le pathos affectif de Paul. On dit « mais qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui lui est arrivé là, en l'espace de deux versets, avec cette espèce d'exclamation ?» Premier texte. Deuxième texte, qui a un statut effectivement en réalité beaucoup plus important, parce que là nous sommes dans deux versets, dans un raisonnement qui parle d'autre chose. Donc la lettre aux Romains a trois chapitres, 9, 10, 11, consacrés à la question des Juifs qui ne croient pas en Jésus. Alors, comment ça commence? Romains, donc Romains, vous savez, vous avez Romains 1 à 8, grande section, 9 à 11, et puis 12, 15, qui sont la partie exhortative. Alors, la partie 1 à 8 est conclue par une péroratio, hein, une péroraison, qui est l'une des plus belles de Paul, hein, vous la connaissez tous. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment avec lui ne nous accordera-t-il pas tout? Qui se fera l'accusateur de ce que Dieu a élu? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera? Le Christ, celui qui est mort, que dis-je, ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous? Qui nous séparera? Je souligne le verbe. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, c'est-à-dire la persécution, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive, donc trois allusions directes à la persécution, hein, tribulation, persécution, glaive. Selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour, nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous aimait. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Bon. Donc, nous sommes dans cette inséparabilité avec le Christ qui nous a aimés. Chapitre 9. Je dis la vérité dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'éprouve une grande tristesse, une douleur incessante en mon cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème, séparé du Christ, pour mes frères, ceux de mon génos selon la chair, eux qui sont israélites, à qui appartiennent la filiation, la huiotessia, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui le Christ est issu selon la chair, lequel est au-dessous de tout, au-dessus de tout, Dieu bénit éternellement. Amen. Donc, la force de ce passage, il vient de dire « Rien ne nous séparera ». Il dit « Je souhaiterais être moi-même séparé ». Alors que Paul, quand vous connaissez la relation de Paul au Christ, ma vie dans la chair, c'est la vie dans le Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Il dit « Je souhaiterais être séparé du Christ. J'éprouve une douleur incessante en mon cœur ». Donc, c'est extrêmement fort. Donc, écrit à la fin de sa vie, ce passage ouvre une longue réflexion sur le dessein et le destin d'Israël. Alors, qu'est-ce qui peut, on va faire un peu de contexte, qu'est-ce qui peut expliquer le passage du ton de 1 Thessalonicien au ton de Romain? Alors, il faut bien voir que pendant quasiment toute sa vie apostolique, Paul a été confronté à des prédicateurs judaïsants, soit d'origine juive ou pas, peu importe. Des gens qui souhaitaient donc convertir les disciples de Paul, pousser les chrétiens pauliniens à adopter les lois rituelles qui définissent l'identité collective des juifs. La circoncision, le shabbat, les lois alimentaires, etc. Et que Paul s'est toujours opposé à eux. Par ailleurs, il a reçu cinq fois les 39 coups de fouet des autorités synagogales, donc juives non chrétiennes, pour avoir troublé l'ordre public, j'imagine, des synagogues, avoir blasphémé, bon, avoir fait ce qu'il ne fallait pas. Pour lui, les païens convertis n'ont pas à devenir juifs. Il n'y a pas besoin d'avoir l'étape devenir juif avant de devenir chrétien. C'est ça la révolution paulinienne. On peut être baptisé, être dans le Christ, sans passer par les marqueurs d'identité traditionnelle du peuple juif. Bien sûr, il faut adopter la Bible, les valeurs, les lois éthiques, le décalogue, les lois conjugales. Un oncle ne peut pas épouser sa nièce et une tante son neveu, etc. Bon, ce que j'ai dit, les unions légitimes, bon, d'accord, tout ça, bien sûr, ça va de soi. Mais, ils n'ont pas à singer les juifs. Hein, comme va un peu faire de l'humour Paul à Pierre à Antioche. Ils n'ont pas à judaïser, ce qu'on appelle techniquement, traditionnellement, judaïser. Je vous rappelle ce passage très important pour la compréhension de Paul, Galates 2, 11. Donc Paul est monté à Jérusalem, il a fait un accord avec Jacques, Képhas et Jean, les notables et colonnes. Nous irions, nous, aux païens, eux, à la circoncision. Bon. Mais quand Képhas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il s'était donné tort. En effet, avant la route, l'arrivée de certaines gens, Tinès, de l'entourage de Jacques, je ne dis pas Jacques, on y soit qui mal y pense, l'entourage de Jacques, se revendiquant de lui. Il prenait ses repas avec les païens. Mais quand ces gens sont arrivés, on le vit se dérober et se tenir à l'écart par peur des circoncis. Et les autres juifs l'imitèrent dans sa dissimulation, dans son hypocrisie, au point d'entraîner Barnabé lui-même, mon vieux compagnon et ami, à dissimuler avec eux. Et c'est sans doute le motif d'ailleurs de la rupture avec Barnabé. Quand je vis qu'il ne marchait pas droit, orthopodoucine, selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Képhas devant tout le monde, ça c'est Paul, si toi qui es juif, tu vis comme les païens et non à la juive, comment peux-tu contraindre les païens à judaïser ? Jusque-là, tu as mangé avec nous, avec les autres. Nous sommes, nous, des juifs de naissance et non de ces pêcheurs de païens. Bon, là, c'est l'ironie de Paul, comme je vous avais dit. Bon. Donc, à la fin, si, recherchant notre justification dans le Christ, verset 17, il s'est trouvé que nous sommes des pêcheurs comme les autres, serait-ce que le Christ est au service du péché ? Certes non, car en relevant ce que j'ai abattu, je me convainc moi-même de transgression. Il dit à Pierre, si tu te caches pour faire ce que tu faisais avant au nom du Christ, tu allais manger avec les païens au nom du Christ. Attends, je m'assois. Ça veut dire que le Christ a fait de toi un pécheur, puisque maintenant tu dis que c'est pas bien. Le Christ a fait de toi un pécheur ? Attends, Pierre, assieds-toi, réfléchis. Est-ce que cette proposition a du sens ? Le Christ aurait pu te pousser à faire quelque chose qui est un péché ? N'importe quoi. Vous voyez ? Par la loi, je suis mort à la loi afin de vivre à Dieu, etc. Bon. Je n'annule pas le don de Dieu, bon, le passage est assez dense. Mais la pointe est très claire. Bon. Toute sa vie, voilà, toute sa vie, Paul a dû lutter contre des gens qui regardaient les pagano-chrétiens de haut, comme des chrétiens de deuxième classe, comme on regarde les chrétiens intouchables dans le Maduré en 1960, ou, que sais-je encore, dans d'autres pays. Et puis, à la fin de sa vie, il reçoit des rapports par le groupe d'amis très important qu'il a à Rome, les 36 noms qui sont cités dans Romains 16. Bon, je vais revenir sur ce mystère. Comment se fait-il que Paul connaisse autant de gens à Rome ? Bon, où il n'est jamais allé, etc. Bon, très bien. Croyez-moi pour le moment quand je vous dis qu'il les connaît et que ces gens sont à Rome. Donc il a des rapports. Et tout d'un coup, les choses changent. Ce sont les pagano-chrétiens qui se mettent à regarder de haut les judéo-chrétiens. Donc, là, Paul va dire « Oh, oh, oh là là, oh là là, oh là là hein, !» L'histoire de la greffe et du... Non, 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 mais vous avez été greffés par la grâce de Dieu, vous, les branches sauvages. Dieu peut parfaitement regreffer les branches naturelles et ne va pas faire le fier. Ne va pas commencer à dire « Oui, nous sommes dedans, et eux, etc., ils sont les pécheurs. » Donc, il va y avoir un renversement de front théologique à la fin de sa vie, où Paul va devoir argumenter d'une manière qui lui était nouvelle, et qui est un petit peu ce testament de Romains 9 à 11, qui est un mystère, je vais revenir là-dessus, qui est une révélation que Dieu lui a faite du salut d'Israël. Donc je reviens à 1 Thessaloniciens 2. Les différences sont telles entre les deux textes, Romains 9 et Thessaloniciens, qu'on se demande presque si c'est le même homme qui les a écrites. Donc nous avons d'un côté une diatribe, ce terme qui a été redécouvert il y a 140 ans dans l'étude sur Paul, la diatribe. La diatribe, c'est un genre littéraire popularisé par les philosophes cynico-stoïques, j'y arrive, qui consiste à apostropher vigoureusement, souvent « tu », un auditeur en général imaginaire ou fictif. Qui es-tu, toi qui juges? Il n'y a personne qui juge ici. Bon. Ou, voyez, Epictète, toi qui considères que l'esclave n'est qu'un objet, n'est pas un être humain. Quoi? Si tu le piques, il ne souffre pas. S'il souffre, il ne pleure pas. Que dis-tu? C'est un homme comme toi. Bon. Alors le gars en question me dit, non, mais attention, moi je n'ai pas d'esclave. Non, mais c'est toi. C'est un tu. La diatribe. Donc une diatribe sévère sur les obstacles mis par les juifs à la prédication des apôtres et des chrétiens. Ils nous empêchent de parler aux païens pour les sauver. De l'autre, Romains 9, une méditation prophétique inspirée par Dieu, dit-il, sur le projet de salut de Dieu qui va prendre en compte ce refus actuel effectif de beaucoup de fils d'Israël à reconnaître en Jésus le Messie et l'interpréter comme une étape nécessaire du plan de Dieu. Alors, les questions surgissent. Ce passage de Thessaloniciens, alors vous avez toujours la solution, est-il authentique? Je vous ai déjà dit que nous, de toute façon, comme catholiques ou orthodoxes, ça ne règle pas le problème, enfin même d'ailleurs les protestants, parce que même si on dit « c'est pas de Paul », c'est comme l'histoire, les femmes se taisent dans les assemblées. On pouvait dire « c'est pas de Paul », enfin maintenant c'est dans le texte du Nouveau Testament. C'est-à-dire que l'Esprit Saint a voulu que ce soit là, donc maintenant il faut se dépatouiller. Une fois que vous avez dit que c'est pas de Paul, vous n'avez rien réglé. Bon. Si ce passage, comme le dit la majorité, l'immense majorité des critiques, à 95%, eh bien de Paul appartient au texte même de la lettre aux Thessaloniciens. Comment le comprendre? Alors vous avez ces fameux titres, hein, toujours bien vendeurs, genre dans le Nouvel Obs ou Le Point, Paul antisémite. Alors dites, Paul était antisémite, les chrétiens sont antisémites. Est-ce que c'est antisémite? Alors évidemment, comme vous savez, c'est un anachronisme parce que antisémitisme est un mot créé au milieu du 19e dans un contexte très particulier en Allemagne. Bon. Alors, je reformule, on va dire anti-juif. Est-ce qu'il est anti-juif? Soyons plus précis, Paul reprend-il dans ces quelques versets des clichés anti-juifs venant de la propagande païenne contre les juifs? Ça serait déjà plus grave de sa part. Du genre, ennemi du genre humain. Tacite, histoire, adversus omnes alios hostile odium. Hein. Ils ont une haine implacable pour le reste des hommes. Les juifs se définissent par la haine. Tacite est l'un des plus anti-juifs des auteurs romains. Quel est le sens de cette exclamation? À quel genre littéraire appartient-elle? Alors, des auteurs soulignent le parallèle avec un texte paratestamentaire, intertestamentaire, comme vous voulez, donc qui appartient dans le troisième volume de la Pléiade. Là, vous avez tous les textes de Qumran, le livre des Jubilés, etc. Donc, qu'on appelle le testament des 12 patriarches, donc littéralement le testament de Lévi 6.2, dont je vais vous reparler plus longuement. Et puis, certains parlent de Matthieu 23.32, que j'ai déjà en fait évoqué tout à l'heure. Eh bien vous, vous comblez la mesure de vos pères. Comblez. Là, il y a un peu la même idée. Serpent, engeance de vipère. Ça, c'est le côté Jésus sympathique, quand on ne parle pas, on dit toujours Jésus très gentil. Et Jésus, de temps en temps, quand il se fâche, ça claque bien quand même. Hein. Serpent, engeance de vipère. Comment pourrez-vous échapper à la condamnation de la géhenne? C'est pourquoi voici que j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes. Vous en tuerez et mettrez en croix, vous en flagellerez dans vos synagogues, pourchasserez de ville en ville, pour que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang de Abel l'innocent jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela va retomber sur cette génération. Donc, une diatribe prophétique, comme on en trouve aussi chez les prophètes. Alors, le texte du testament de Lévi finit par finit par le même verset C'est ça qui est étonnant. Elle est tombée cependant, la colère de Dieu, sur eux à la fin, eistelos. Donc, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que dans un texte non chrétien, paratestamentaire, juif, il y avait l'utilisation du même motif et des mêmes mots pour parler du jugement de Dieu sur les méchants, on va dire. Alors que les méchants, alors de temps en temps, vous avez des textes qui tombent sur les païens. Je peux vous dire que les méchants païens, ils vont très très mal finir. Ils vont retirer quelque chose de grave. Et parfois, ça tombe sur Israël. Le contexte global du Testament de Lévi est très analogue à la situation dénoncée par Paul. C'est un moment où Dieu se met en colère contre les habitants de Sichem à cause du viol de Dina. Bon, vous avez tous ça en tête, naturellement, dans la Genèse, mais bon, on est bien d'accord pour dire que le viol, c'est pas bien du tout. Bon, et Dieu se fâche grave. Comment comprendre l'expression difficile à la fin « eistelos » signifie-t-elle totalement, complètement, à la fin, pour toujours? L'expression se trouve deux fois dans la Bible en grec, dans le psaume 89 et en Deutéronome 31. Alors ça peut vouloir dire « pour l'éternité » ou tout simplement « complètement ». Lorsqu'il eut achevé d'écrire sur un livre les paroles de cette loi, « eistelos » Deutéronome 31-24. Jusqu'à la fin. Dans les deux textes, Paul, les nuances de temps sont présentes. Paul veut souligner la gravité de ceux qui s'opposent à Dieu et à son Messie. Le parallèle avec le testament de Lévi et avec le texte de Matthieu montre donc que, c'est ma thèse et celle de d'autres, que Paul s'appuie sur un lieu commun de la tradition biblique, celui de la persécution des prophètes et des justes, persécutés par le peuple de Dieu lui-même. Loin de faire appel à des poncifs anti-juifs du temps, Paul parle, comme à sa manière d'ailleurs souvent, comme un prophète, comme Isaïe, Jérémie et les petits prophètes aussi. Paul écrit comme sous le coup de la colère. Alors attention, les colères littéraires de Paul sont très travaillées. Ça donne l'impression, c'est pas qu'il écrivait au coin d'une table et que ça lui est sorti. C'est comme les phrases qu'il ne finit pas, c'est tout à fait volontaire. C'est des techniques littéraires pour exprimer l'indignation, la colère. Paul veut exprimer sa colère suscitée par l'opposition extrême que les communautés juives suscitent à sa prédication auprès des païens et des persécutions civiles provoqué par les notables juifs, dont nous connaissons bien le fonctionnement et le déroulé grâce aux actes des apôtres. Les leaders juifs, les chefs de synagogue, les femmes influentes converties au judaïsme, comme Antioche Pisidie, vont voir les magistrats pour dire « il y a ici une secte extrêmement dangereuse, animée par des gens pervers, qui sont en train de provoquer une grande agitation en ville, il faut absolument mettre bon ordre à tout ça, les faire fouetter et les expulser rapidement de la ville ». Et régulièrement, Paul se fait châtier et expulser. Donc, vous voyez, la conséquence, c'est qu'il ne peut plus continuer dans cette ville à annoncer l'évangile. Donc, dans la phrase ici, il nous empêche de parler aux païens. C'est en cela qu'il se révèle ennemi de tous les hommes. Pas parce qu'ils se seraient des ennemis métaphysiques par définition des gens. C'est parce que, en empêchant les apôtres d'annoncer l'évangile, il freine ou empêche, il n'empêche pas en réalité, bon, il freine le salut de tous. Donc Paul semble viser ces juifs qui se sont opposés à lui à Thessalonique et qui ont sans doute d'ailleurs contribué à son départ. En s'opposant à l'entrée des païens dans l'Alliance et dans la foi, ces Israélites-là donnent un contenu à cette accusation d'ennemi formulée par les païens. Ils ont bien raison, là, ces anti-juifs d'Égypte ou de Grèce qui disent que vous êtes ennemis du genre humain. Évidemment, vous empêchez Dieu de les sauver. Ils donnent ainsi paradoxalement raison à leurs détracteurs. Alors, si on regarde la gradation dans la critique, ça c'est très intéressant parce que ça va être extrêmement discuté au moment du Concile, sur le débat de déicide. Ces gens-là, alors, vous souffrez le même traitement de la part des Juifs. Ces gens-là ont mis à mort Jésus le Seigneur, et les prophètes encore plus. Et ils nous ont persécutés. Bon, ils ont tué Jésus, bon, d'accord, on sait très bien, les prophètes, et nous. Ils ne plaisent pas à Dieu, ils sont ennemis de tout le monde quand ils nous empêchent de prêcher. La gradation, c'est pas ils nous ont tués nous et les prophètes, et enfin ils ont tué Jésus, crime abominable. La gradation, on commence, on rappelle qu'ils ont tué Jésus, mais ce n'est pas du tout l'affaire de déicide qui est derrière. C'est que Jésus, comme les prophètes, d'ailleurs il l'avait dit, a été persécuté et assassiné comme Zacharie, fils de Baraki, comme Jérémie, et donc Isaïe, je vous dis. À l'époque, on le croyait. Donc, en d'autres termes, l'expression évoque la responsabilité passée des autorités juives dans la mort de Jésus, mais c'est moins grave que la responsabilité actuelle de s'opposer à l'annonce de l'évangile aux nations. Vous voyez la gradation. Pas la question principale, c'est pas Jésus. C'est maintenant l'annonce du salut. Donc, le thème fondamental de ce petit passage, pour synthétiser un petit peu, le thème fondamental de ce passage de Thessaloniciens, c'est tout simplement que Paul reprend le thème biblique et prophétique de la persécution des prophètes. Voilà. Il se trouve qu'il y a une loi mystérieuse qui veut que quand Dieu envoie des prophètes, eh bien ces prophètes se font accueillir à coups de cailloux et finissent mal. Ça ne commence pas avec Jésus. Ça a toujours été comme ça. C'est là où je dis que d'ailleurs il n'y avait pas besoin d'être polytechnicien ou d'avoir un téléphone rouge avec l'Esprit-Saint pour que Jésus dise que ça allait mal se finir pour lui à Jérusalem. Même pas besoin d'avoir fait des études poussées de Bible. Jean-Baptiste assassiné, Jérémie jeté dans la citerne, Zacharie assassiné, machin. Tous les prophètes ont quand même des problèmes. Pourquoi ça serait différent avec Jésus? Donc les évangiles régulièrement rappellent cet itinéraire des prophètes. Par exemple, il y a ce passage de Luc 11, 49, sur lequel il y a une assez grosse bagarre d'ailleurs, parce que la source est un petit peu mystérieuse. Donc Luc 11, 49. Donc malheur à vous, malheur à vous, hein, malheur à vous les pharisiens, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Malheur à vous, vous bâtissez les tombeaux des prophètes. Oh, la belle affaire. Et ce sont vos pères qui les ont tués. Oui, les miens aussi, pourrait dire Jésus. Enfin, les pères de tout le monde, quoi. Vous êtes donc des témoins et vous approuvez les actions de vos pères. Eux ont tué, vous vous bâtissez. Voilà pourquoi la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils en tueront, ils en pourchasseront, afin qu'ils soient demandés compte du sang à cette génération du sang de tous les prophètes, etc. etc. » Alors c'est qui la sagesse de Dieu a dit? De qui est ce texte? Parce que l'évangéliste ne dit pas « Comme l'a bien dit le prophète Isaïe » ou « Comme l'a bien dit le prophète Jérémie » citation, alors là tout va bien, on vérifie, ça va, pas de problème. Sagesse de Dieu. Vous pouvez aller chercher le livre de la sagesse, vous ne trouverez rien. Bon, alors c'est la sagesse qui vient de me dire, là, c'est une prophétie, je leur enverrai des apôtres, des prophètes et des apôtres. Il semblerait qu'il y ait une allusion au livre des Jubilés. Ça serait une des rares citations, il y en a deux ou trois, dans le Nouveau Testament, d'un texte non biblique, mais qui était considéré par certains à l'époque comme canonique, et qu'il est heureusement pour nous chrétiens grâce à nos frères éthiopiens, puisque les chrétiens éthiopiens, coptes éthiopiens, ont le livre des Jubilés dans leur Bible. Nous sommes sauvés. C'est pourquoi, je vous cite, « Je leur enverrai des témoins pour témoigner contre eux, mais ils n'écouteront pas. Et même ils tueront les témoins, ils persécuteront ceux qui recherchent la loi, ils abrogeront, et ils commenceront à faire le mal devant mes yeux. » Jubilés 1,12. Alors ça nous rappelle, alors dans l'équivalent de Matthieu, Matthieu 23, 34, on ne parle pas de la sagesse. Voilà ce que dit Matthieu. « C'est pourquoi, voici que j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes, vous en tuerez et mettrez en croix, vous en flagellerez dans vos synagogues et pourchasserez de ville en ville. » Certains auteurs préfèrent y voir, si le livre des Jubilés vous gêne vraiment, ça vous empêchera de dormir ce soir, il y a un plan B, 2 Chroniques 24, 19. Qui est donc ce récit qui, semble-t-il, a beaucoup intéressé Jésus. Alors, si ce n'est Jésus, du moins l'esprit de Jésus parlant aux évangélistes peu de temps après Jésus. vous choisissez l'option A ou l'option B, de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance pour nous. C'est Jésus ressuscité qui nous parle dans les évangiles du verset A au verset Z. Bon. Que dit 2 Chroniques 24, 19? Eh bien, c'est juste avant le récit de l'assassinat de Zacharie, bon, fils de Jéhoïada, et non pas de Baraki. Bon, soit les gens disent, soit Jésus était distrait, soit le copiste était distrait, soit il utilisait un manuscrit différent, ce qui est peut-être le plus probable. Il envoya Dieu des prophètes parmi eux pour les ramener au Seigneur par leurs exhortations, mais ils n'écoutèrent pas. Alors l'Esprit du Seigneur s'empara du prêtre Zacharie, fils de Jéhoïada, qui se dressa contre le peuple et dit, « Ainsi parle le Seigneur, pourquoi transgressez-vous les préceptes du Seigneur? Vous ne prospérerez pas. Puisque vous avez abandonné le Seigneur, il vous a abandonné. » Alors ils conspirèrent contre lui et ils le lapidèrent. Vous voyez, ce thème de la persécution des prophètes par le peuple avait pris une place très importante dans le judaïsme, depuis les textes bibliques fort anciens jusqu'au temps de Jésus. Il est présent dans l'Évangile, connu des Juifs de l'époque et s'enracine dans la Bible. C'est un super, super topos où vous êtes pédant et vous êtes en doctorat de théologie, vous dites un théologoumenon, c'est-à-dire c'est un thème théologique qui est particulièrement mis en valeur par la tradition juive de l'époque et totalement assumé par Jésus. Voilà. Quand un prophète se dresse animé par l'Esprit de Dieu, on lui tombe dessus. Donc, Paul, dans cette exclamation colérique, utilise rapidement et à la perfection un thème biblique et prophétique, déjà utilisé par Jésus, qui dénonce avec force le refus de l'écoute des prophètes et les persécutions subies par les prophètes. Loin de puiser un anti-judaïsme païen, Paul s'appuie sur la critique des Juifs faite par les Juifs eux-mêmes. Comme vous diront toujours des Juifs, il n'y a qu'un Juif pour critiquer aussi fort d'autres Juifs. Bon. Donc, personne n'a dit des choses aussi dures sur les fils d'Israël que les prophètes d'Israël. Les reproches de Paul prennent donc un tout autre sens que chez les païens. Paul ne définit pas la nature des Juifs, d'ailleurs il est Juif, comme les païens la voyaient. Une espèce de méchanceté intrinsèque, de haine naturelle du genre humain. Non, il définit l'opposition historique concrète des synagogues. En faisant référence à l'exemple des prophètes, Paul s'appuie sur toute la conception de l'histoire biblique. La critique d'Israël, du peuple d'Israël, faite par des prophètes d'Israël, juifs eux-mêmes, comme Amos, Osée, Jérémie, etc. C'est Israël qui s'oppose à Dieu, persécute et tue les prophètes, et s'oppose par son infidélité au dessein de Dieu, provoquant ainsi la colère de Dieu. La colère de Dieu, ce n'est pas une invention paulinienne ou néo-testamentaire, c'est un thème prophétique. Donc, même s'il se rapproche à un poil, une feuille de papier à cigarette, de ce qui peut apparaître comme un topos anti-juif, parce que quand même, il faut reconnaître que l'expression « ennemi de tous les hommes », elle est quand même dure à digérer. Paul argumente en fait de façon totalement biblique dans le cadre d'une polémique intra-juive. C'est aussi l'argument de Boyarine sur le livre de Jean, l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, est-ce que l'évangile de Jean est anti-juif? J'en parlais encore vers lui en octobre. C'est ridicule. C'est comme dire que le livre des Jubilés est anti-juif, ou le livre d'Amos est anti-juif, ou le livre de Jérémie est anti-juif. À ce compte-là, tout le monde est anti-juif. Boyarine, il dit, le livre de Jean, l'évangile de Jean, est profondément... Il dit même avec humour, c'est ce qui prouve que c'est un écrit juif. C'est exactement ce qu'il dit sur les juifs. C'est exactement comme ça que les juifs parlent des juifs. Donc, loin d'être anti-juif, c'est une polémique théologique religieuse. Le prophète exprime la critique de Dieu envers son peuple. C'est comme si on dit le pape il est contre le clergé ou anticlérical parce qu'il dit que les prêtres doivent ceci ou cela. Il est prêtre lui-même, il parle prophétiquement. Alors, j'espère avoir fait une défense de Paul qui tient la route, mais vous me direz, est-ce que 1 Thessaloniciens 2, 14, 16 pourrait être le dernier mot de Paul sur la question. Ça serait quand même rude. Que le dernier mot de Paul vis-à-vis de ses frères juifs non chrétiens puisse être un mot de colère. De colère prophétique, de colère biblique, tout ce que vous voulez, mais quand même de colère. Le dernier mot de Paul le prophète ne peut-il pas être un oracle de salut? Eh bien, c'est profondément ce qu'il va être. Et le petit mot qui le révèle, dans Romains 9 à 11, c'est le mot « mystère ». Je vais vous révéler un mystère. Le mot « mystère » dans la Bible est un terme technique qui apparaît à partir du livre de Daniel. Donc un mystère, ce n'est pas une énigme. Un mystère, c'est la révélation, Apocalypse, la révélation du dessein de Dieu pour le futur, pour des groupes humains importants. Alors Daniel dit des choses sur le sort des saints du Très-Haut et du Fils de l'Homme. Voilà donc, en d'autres termes, Paul, dans Romains 9 à 11, veut nous dire quelque chose de plus que, vous savez, ce matin, je me suis rasé, j'ai pris mon café, puis j'ai réfléchi un peu à la théologie. Vous savez, moi j'ai reçu l'Esprit de Dieu, je suis quand même Paul, hein, on m'a imposé les mains, ça bon. Donc, par rapport au problème qui nous intéresse, voilà ce que je propose. Non, il ne dit pas ça. Ce qui lui arrive d'ailleurs, dans Corinthiens, par moments, il dit, bon, écoutez, sur cette question, je n'ai pas d'instruction particulière du Seigneur Jésus, mais enfin, je pense bien moi aussi avoir l'Esprit de Dieu, il y a d'autres qui disent comme ça, voilà ce que je dis. Paul, il est modeste, il dit, écoutez, moi j'ai reçu l'Esprit, je suis apôtre, voilà comment je vois les choses. C'est très différent de dire ça, et de dire, Dieu m'a dit que. Vous voyez la différence? Il y a un moment donné où les choses dans votre vie apparaissent comme le Seigneur m'a dit de faire ça. Hein, comme Mère Teresa dans son bus, dans son train, là, à Calcutta, en allant à Darjeeling en 47. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui se joue où elle va voir sa supérieure générale en disant « Le Seigneur m'appelle à faire ça ». Donc à ce niveau-là, si la supérieure générale dit oui, la supérieure générale dit non, vous continuez. Hein. S'il faut quitter, je quitterai. S'il faut... Mais je ne peux pas faire autrement. Bon. J'ai bien aimé le petit paragraphe en passant. Vous avez vu la du pape sur sa décision d'aller en Corée. Discernement. Vous avez lu un peu cette affaire-là? C'est assez beau parce que pour dire, bon, je sais pas, j'ai réfléchi, j'ai 4 invitations, et puis j'ai décidé que j'irai en Corée. Après tout, va très bien. Non, j'ai prié pendant plusieurs jours, et m'est revenu. Voilà, m'est venu dans l'esprit que je devais aller en Corée. Donc il dit, c'est le Seigneur qui me dit, tu dois aller en Corée. Il va un peu plus loin. Et je ne sais plus qui, son solidaire, disait, c'est sa méthode. Alors bon, si vraiment, au cœur de sa prière, pendant des jours et des jours, lui revient la même motion, tranquille, dans la confiance, etc., etc., donc c'est que ça vient de l'esprit. Alors qu'il y a peut-être, il pourrait prendre d'autres moyens rationnels que saint Ignace recommande pour prendre une décision. Est-ce que je vais passer mes vacances en Croatie ou en Crète? Bon, alors je vais prier pendant 3 jours. Je vais jeûner au pain et à l'eau en attendant que le Seigneur me dise est-ce que je dois aller en Croatie ou en Crète. Mais les sujets, il dit, bah, tu décides, tu vas en Croatie ou en Crète, c'est bien. Avec ta raison, ton porte-monnaie, tu décides, ça va très très bien, ça marche aussi ça. Peut-être le bon sens, la raison, l'intelligence, avantages, inconvénients, pof, puis on décide. Pas besoin de... Bon. Alors là, on pourrait dire, le pape, bon, voyage, pas très important, on décide pour aller aux États-Unis, pour aller, je sais pas où, aux Philippines, bon, où est le problème? Non, il a traité cette question-là spirituellement. Je trouve ça intéressant. Alors les Argentins râlent, parce qu'il leur a déjà dit qu'il n'irait pas en Argentine avant 2016, 2017, voire 2018. Il va falloir être patient, si Dieu lui prête vie. Ben, c'est comme ça, tu vois, c'est très clair pour lui. Il ira en Asie et en Afrique avant d'aller en Argentine. Petite parenthèse. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une différence de statut théologique et même de statut littéraire entre les 3 chapitres précédés par la prière et le prologue que je vous ai lu en Romains 9, 1 à 5 et ces 2 versets où Paul reprend effectivement un topos prophétique, bon, dénonçant en fait les persécutions des autorités juives contre sa prédication. Voilà. Bon, ni plus, ni moins. Mais comme je le disais aussi, c'est concrètement ce que Paul, pendant 20 ans de sa vie, enfin entre 32 et 57, ça fait même 25 ans, a subi. C'est-à-dire les 39 coups de fouet, les expulsions de synagogue, les lapidations, et les prédicateurs judéo-chrétiens qui viennent en disant « Oui, oui, non, mais Paul, vous savez, c'est sympa, mais c'est pas le vrai christianisme, c'est pas, d'ailleurs, c'est pas un apôtre, etc. etc. » Donc, je veux dire, vous comprenez que Paul, de temps en temps, la moutarde lui montonnait. Il est confronté en permanence au même défi contre ses églises, contre lui-même, par des gens qui viennent du même milieu. Bon. Donc, c'est que à la fin de sa vie que il va être attaqué, si je puis dire, non sur sa droite, mais sur sa gauche, par là où il ne l'attendait pas. Donc, dans Romains 9 à 11, nous sommes face à une toute autre vision, de valeur incomparablement plus grande. Paul révèle un mystère, pas seulement ce qu'il a pensé comme croyant, mais ce que Dieu lui-même a daigné lui révéler, à la suite de sa prière, on peut le penser. À Rome, une fois les leaders judéo-chrétiens expulsés par l'empereur Claude en 49, je reviendrai sur ça, parmi eux, le couple chrétien fondamental, Priscille et Aquila, magnifique catéchèse de Benoît XVI, un an après son élection, si vous ne l'avez pas lu, lisez-la, ça se trouve sur Internet en deux clics. Donc le couple chrétien d'évangélisateurs le plus connu du 1er siècle, qui ont risqué leur vie pour sauver la vie de Paul, sans doute à Éphèse. Bon. Donc là, j'anticipe un peu sur mon dernier cours, mais dans le contexte. Partout où l'évangile est annoncé, dans les synagogues, dans les communautés juives, il y a des bagarres, évidemment. Comme dit Luc à sa manière, certains croient, d'autres pas, toujours, partout, ça se divise. Et comme l'homme est l'homme, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, disait Montaigne, bon, ça se castagne. Rome est une ville juive très particulière, parce que, à la différence d'Alexandrie, d'Antioche, de Tarse, d'Éphèse, ou même des villes de l'Orient où les Juifs sont là depuis longtemps, installés, ont leur propre synagogue. La synagogue d'Alexandrie, c'est la 8e merveille du monde. Le Talmud dit qu'il n'a pas vu la synagogue d'Alexandrie, n'a rien vu. C'était un bâtiment, c'était pas le temple de Jérusalem. C'était mieux que le temple de Jérusalem avant qu'il soit refait par Hérode, pour formuler les choses comme ça. Donc avec un conseil des anciens, des sanhédrines, des institutions, à Sardes, bon, tout ça est extrêmement bien organisé et c'est une communauté où vous avez beaucoup de marchands, de gens importants. La communauté juive de Rome s'est constituée très vite et elle démarre avec des esclaves et puis après des affranchis. C'est une communauté modeste qui habite essentiellement les quartiers pauvres et insalubres, le Trastevère, qui n'a pas de grande synagogue, qui n'a pas de conseil central. Il y a, dit-on, 13 synagogues, de petites synagogues de quartier. Si vous voulez, il faut plutôt penser à la structuration des mosquées dans nos banlieues que à l'église catholique ou même aux grandes synagogues de Paris. Donc, c'est une population déjà divisée et qui a peu de moyens, aussi sans doute religieux, par rapport à ces grandes métropoles de l'Est. Donc, le message de l'Évangile arrive très vite, puisque Rome, c'est le centre du monde et que tous les bateaux, tout ça, arrive. Donc, il y a forcément des chrétiens qui arrivent. Je vais revenir sur ce grand mystère. Qui est l'apôtre qui a fondé la ville de Rome, les chrétiens de Rome? On ne sait pas. Pas de raison de supposer que ce soit Pierre particulièrement. C'est certainement pas Paul, évidemment, ça on le sait. Mais ce n'est pas Pierre non plus. D'ailleurs, aucun pape n'a jamais dit ça pendant 4 siècles. C'est pas le problème de Rome, c'est nous avons le tombeau de Pierre et de Paul. Ah oui, ça c'est très important. On n'a jamais dit qu'ils nous avaient fondés. Mais ils sont morts chez nous, ce qui n'est quand même pas rien. Donc, qu'est-ce qui se passe devant les synagogues? Ça se bagarre à la sortie du Shabbat, parce qu'un certain nombre de chrétiens, de juifs chrétiens courageux, type Priscille et Aquila, vont annoncer l'évangile direct. Bon. Alors, il semblerait que Claude prenne un décret en 49. Bon, il y a un débat sur la datation qui est acharné. Un ou deux historiens romains mentionnent en passant le décret d'expulsion des Juifs. Bon. Alors, comme je dis, le décret d'expulsion des Juifs, si les Juifs sont entre 70 000 et 100 000 personnes à Rome à l'époque, si vous expulsez 70 000 personnes, ça fait plus qu'une ligne dans les pages d'histoire, même de l'époque. Parce que c'est très compliqué comme opération. Il faut des centaines de bateaux, si vous les emmenez par bateau, où ça? Si ce n'est pas par bateau, c'est dans une ville d'Italie, mais où ça que vous mettez des juifs comme ça? Ça se saurait, enfin je veux dire, où? Les gens vont dire, mais attendez, oh là, mais... Bon. Donc, le scénario le plus probable, c'est ce que j'appelle le scénario des renseignements généraux français. C'est-à-dire que quand vous voyez que des imams salafistes se bagarrent devant une mosquée de Bondy ou de Noisy-le-Grand, bon, vous avez des agents civils qui arrivent, enfin, on dit, on sépare un peu, il y a 4-5 types qui se bagarrent là-devant, bon, tout le monde au poste, on vérifie un peu les papiers, on prend les meneurs, quoi. On prend les meneurs, ceux qui manifestement mènent les affaires, et tenez-vous bien, on tombe sur des gens qui ne sont pas en règle au niveau des papiers, sur un imam égyptien arrivé il y a 3 ans, un peu bizarre, sur un imam algérien sorti d'on ne sait pas où, et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les met dans des avions en disant, mon ami, ne revenez pas. Alors, est-ce que le gouvernement français expulse les musulmans de France? La réponse est non. Est-ce que ça se saurait? Parce que là, ça devient une opération compliquée. Il vous faut plus que quelques bateaux. Bon, mais enfin, c'est une manière de dire, je ne tolérerai pas d'atteinte. À l'époque, la police de Rome, au 1er siècle, est très bien faite. Donc, nous ne tolérerons pas d'atteinte à l'ordre public. Donc, ceux qui troublent l'ordre public doivent quitter la ville. Ils ne sont pas mis en prison, ils ne sont pas assassinés, ils ne sont pas torturés, ils sont expulsés. Claude était un homme assez tolérant, l'empereur Claude, et qui avait d'ailleurs des sympathisants du judaïsme dans son entourage. Donc, Claude n'est pas du tout... c'est quelqu'un de plutôt bien, Claude. Bon. Donc, Priscille et Aquila arrivent en 49, fin 49, à Corinthe, où ils vont très vite tomber sur un compatriote qui s'appelle Paul, et ils vont leur donner du travail. Lui donner du travail dans leur atelier textile, et Paul va passer, nous dit Luc dans les Actes, 18 mois avec eux. Bon. Je réponds déjà un peu à ma question, comment Paul connaît du monde à Rome? C'est que, effectivement, quand Priscille et Aquila, à la mort de Claude en 54, discrètement, puisque l'édit d'expulsion était une espèce de décret de police qui tombe à la mort de l'empereur, quand les expulsés de 49 peuvent revenir en 54, ils sont donc à Rome. Et alors là, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'homme est humain, comme je disais tout à l'heure. Ces leaders judéo-chrétiens, qui étaient les leaders de la communauté chrétienne de Rome avant 49, ben, ont été remplacés. Ont été remplacés par des braves pagano-chrétiens. Et alors, tenez-vous bien, au lieu de dire, c'est bizarre, hein, au lieu de dire, ah, comme on est content de vous voir, venez donc, etc., on leur dit, bon, écoutez, maintenant, nous, c'est nous les patrons. Donc, vous vous asseyez au fond, hein, et vous vous taisez. Bon, etc. Donc, ils vont écrire à Rome, ils vont écrire à Paul en disant, voilà maintenant qu'apparemment, être juif, c'est une tare, c'est un problème, il faut qu'on se taise, qu'on reste au fond, et que maintenant, les clés du camion, c'est les pagano-chrétiens qui les ont, et qu'il ne faut surtout pas rien dire. Alors là, Paul va se fâcher aussi, mais plutôt il va méditer, prier et nous sortir la méditation de Romains 9 à 11, qui est un vaste avertissement adressé aux pagano-chrétiens de ne surtout pas entrer dans le péché d'orgueil, de ne surtout pas sous-estimer la capacité qu'a Dieu de regreffer les branches et surtout de dire « ne croyez pas que Dieu a condamné ces gens-là ». Comment Dieu pourrait-il condamner ceux qu'il a élus dans son dessein? Voilà. Donc, nous verrons un peu plus longuement ce que Paul dit aux Romains la prochaine fois.